Et nous parlons à 7h20 sur Europe 1 de l'islam en France ce matin avec l'invité du 5-7. Alors que ce projet de loi, désormais renommé projet de loi confortant les principes républicains, sera présenté en Conseil des ministres tout à l'heure. Franck Frégosi, vous travaillez sur ces questions de religion, de laïcité au sein du CNRS. Vous aviez piloté il y a quelques années une enquête sur les cadres religieux musulmans en France. Qu'est-ce que vous aviez mis en avant en quelques mots ?
Eh bien, nous avions surtout insisté sur le fait que nous avions procédé à des entretiens avec des imams impliqués localement, et à peu près ce qu'on constatait, c'est qu'il y avait une demande émanant notamment de ces cadres religieux d'une forme de reconnaissance sociale sur leur investissement quotidien, jour et nuit, parfois auprès des fidèles, reconnaissance aussi salariale pour ceux qui étaient salariés. C'est le cas à peu près de 700-800 imams en France d'associations qui souhaitaient voir tout simplement leur salaire revu à la hausse. Et puis aussi une forme de reconnaissance, je dirais, du fait que ce sont les acteurs principaux finalement de l'islam du quotidien. Or, jusqu'à aujourd'hui, dans tous les dispositifs visant à organiser l'islam en France, ils ont souvent été tenus à l'écart. On en reparle aujourd'hui à propos d'une convention nationale des imams, mais il reste toujours des sujets à part, alors qu'ils sont, je dirais, les acteurs principaux avec les fidèles de l'islam au quotidien.
Est-ce qu'on arrive à estimer le nombre de ceux qui sont radicalisés ?
Écoutez, non, je pense qu'il n'y a aucune statistique sérieuse n'existe. On sait qu'en France, il y a à peu près 2200 imams, et que sur 2200 imams, il y en a à peu près, 300 qui sont des fonctionnaires détachés d'État étrangers, donc qui sont appelés à, normalement d'ici 4 ans, il ne doit plus en avoir en France. 55% des imams de France sont bénévoles, donc n'ont aucun lien, je dirais, de subordination avec une association. Il est très difficile aujourd'hui d'élaborer des critères précis. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut rien faire. Les pouvoirs publics sont dans leur droit de pouvoir veiller à ce que dans les lieux de culte, il n'y ait pas de propos qui portent atteinte, je dirais, à l'intégrité des personnes ou remettent en cause la nature républicaine des institutions. Mais la difficulté, c'est justement aussi que dans le cas de la laïcité, nous sommes dans un État qui est neutre religieusement et qui garantit la libre organisation des cultes.
Alors, il y a ce projet de loi contre les séparatismes, qui est le nom qui en a beaucoup utilisé, et puis plus généralement, il y a l'intention de construire un islam de France, et ça, c'est pas nouveau, c'est une intention qui date d'il y a de nombreuses années, avec des imams qui seraient formés en France. Pourquoi on n'y est jamais arrivé ?
Écoutez, d'abord, il y a eu des instituts privés qui forment en France des imams. Simplement, la règle, souvent, qui a été mise en place, y compris par des grandes fédérations, c'est parfois celle en lien avec des pays étrangers, de préférer former les imams au Maroc ou en Algérie pour ensuite les faire venir en France. Il y a eu entre-temps une autre initiative qui a été prise, notamment d'acteurs locaux de l'islam de France, d'essayer de réfléchir à partir du cadre hexagonal. Il y a des initiatives qui ont été prises, notamment du côté de Lyon, du côté de Bordeaux, visant à mettre en place, y compris de Paris, mettre en place une formation qui soit plus adaptée finalement au quotidien, je dirais, des musulmans de France même. Simplement, là encore une fois, je vous l'ai dit, il y a plusieurs fédérations, donc il y a des enjeux, derrière ces fédérations, il y a parfois des rivalités étatiques qui font que chacun, je dirais, a son idée de la formation idéale, et le gros défaut peut-être dans ce dispositif, c'est peut-être l'absence d'une mutualisation des compétences, et surtout l'absence véritablement d'une analyse concrète de quels sont les besoins et les attentes des principaux concernés, que sont les imams.
Avec derrière des luttes d'influence entre puissances étrangères. Alors Emmanuel Macron veut aller plus loin, il voudrait des imams, entre guillemets, certifiés républicains, qui seraient validés par un conseil des imams de France qui serait créé. C'est ce qu'il a demandé au conseil français du culte musulman. Est-ce que selon vous ça peut marcher ?
Écoutez, l'idée, pourquoi pas, qu'il y ait un conseil national des imams, d'ailleurs il existe, il a été créé dans la foulée par le conseil français culte musulman. La difficulté, c'est que nous sommes en train de reproduire quelque part des erreurs antérieures, c'est-à-dire que nous pensons l'organisation de l'islam du haut vers le bas, alors qu'il faut partir au contraire de ce qu'est la réalité de l'islam au quotidien, dans les régions, dans les départements, pour ensuite remonter au niveau national. J'en veux pour preuve, il existe dans plusieurs régions et départements de France des conseils locaux d'imams. C'est le cas en Rhône-Alpes, c'est le cas en Lorraine, c'est le cas dans les Alpes-Maritimes. Pourquoi n'avoir pas plutôt invité à multiplier ces structures au niveau local pour ensuite envisager une structure au niveau national? Encore une fois, on ignore la réalité finalement de l'ancrage de l'islam dans les territoires, et cette logique, je dirais, pyramidale correspond peut-être à un schéma, je dirais, très jacobin, très centralisateur, pour le dire très gallican, mais ne reflète pas la réalité quotidienne de ce qu'est l'islam en France. Donc l'idée, pourquoi pas, simplement la méthode qui a été choisie ne me paraît pas la plus efficace.
Une certification qui serait accordée en échange de la signature d'une charte reconnaissant les principes républicains. Mais ce qu'on peut préciser, Frédéric Frégosi, c'est que cet aspect n'est pas dans la loi séparatisme qui est présentée aujourd'hui. parce qu'en fait l'État ne peut pas totalement se mêler de tout ça. Il y a les principes de liberté de religion, il y a les principes de séparation de l'Église et de l'État. Est-ce que l'État est finalement impuissant sur ces questions-là ?
Alors, l'État, je l'ai rappelé tout à l'heure, peut parfaitement, au titre de la police des cultes, veiller à ce qu'effectivement, dans les mosquées, on ne tient pas de propos, je dirais, appelant à l'insurrection ou portant atteinte, je dirais, à telle personnalité. C'est un fait. Donc, il y a des moyens. L'État peut, via les aumôneries dans les services publics, veiller à encadrer la pratique religieuse. Néanmoins, s'agissant là d'un point d'organisation du culte, l'un des principes de la laïcité, c'est aussi que chaque communauté s'organise selon ses usages, ses traditions. Donc, il en va de même pour l'islam, même s'il faut reconnaître que si l'État n'était pas intervenu, jamais le CSM n'aurait vu le jour. Mais je pense qu'il faut faire la distinction entre un coup de pouce de l'État à un moment T avec le fait que l'État se transforme lui-même en agent régulateur de l'islam. Ça, à mon avis, nous risquons de porter atteinte quelque part, en tout cas à un esprit de la laïcité qui met aussi les croyants devant leur responsabilité. C'est aux croyants, c'est aux responsables communautaires de prendre en charge et faire leur communauté. La solution ne pas venir systématiquement de l'État.
Et de prendre en charge cette lutte contre la radicalisation.
Sur la question, effectivement, de la lutte contre les phénomènes de radicalité. Et l'État est dans son droit, puisque c'est un enjeu de prérogative régalienne de sécurité. Mais pour autant, il ne peut pas non plus se substituer aux principaux intéressés s'agissant de l'organisation et du fonctionnement d'un culte.
Merci beaucoup.
Dès lors que celui-ci s'organise dans le cadre du droit de l'ordre public.
Merci beaucoup, Franck Frégosi, pour votre éclairage ce matin, directeur de recherche au CNRS. Très bonne journée à vous.
Merci.